Peut-être il vous est déjà arrivé de lire que la posture de la pince pouvait soulager la dépression, que la posture de la chandelle pouvait soigner l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Toutes ces allégations santé sont parfois peu vérifiables par la science. Et en effet, le yoga étant une pratique globale qui agit autant sur le corps que l'esprit, il peut être très difficile de valider certaines allégations santé. Alors pour autant, faut-il s'intéresser à la science quand on pratique le yoga? C'est sur cette question que nous allons discuter, Rémi et Gwen, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler par rapport à l'épisode du Strala Yoga, puis dans des épisodes individuels. Dans cette discussion, nous allons essayer de comprendre quels peuvent être les liens, en effet, entre le yoga et la science, quels peuvent aussi être les limites à certaines informations scientifiques, comment finalement aiguiser son esprit critique quand on lit des articles scientifiques, et nous vous partagerons nos ressources, les ressources sur lesquelles nous nous basons le plus, que nous trouvons à ce jour les plus fiables, pour finalement un peu mieux comprendre et surtout nuancer tout ce qu'on peut dire par rapport aux bienfaits du yoga. Car bien sûr que le yoga a des bienfaits, mais qui sont parfois à nuancer. Avant de vous laisser dans cet épisode dans lequel vous allez, je pense, trouver des réflexions enrichissantes, je vous inviterai à vous abonner, à noter ce podcast. C'est quelque chose qui peut faire énormément pour la progression et l'évolution de ce podcast. Je vous suis très reconnaissante pour votre présence et votre écoute. Alors d'avance, un grand merci. Bonjour Gwen et Rémi, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui, je pense, on peut dire, nous passionne tous les trois et on a beaucoup de choses à dire, donc on espère qu'on va garder un timing plutôt classique et plutôt acceptable pour vous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Gwen et Rémi, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et nous expliquer quelle est, vous, votre histoire entre le yoga et la science?
Ah, c'est moi qui commence.
C'est toi qui commence.
C'est toujours moi qui commence.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Eh bien, moi, je m'appelle Gwen. Je suis prof de yoga depuis bientôt 10 ans. J'enseigne essentiellement le Strala Yoga, qui est une pratique dynamique, le Yin Yoga et le Yoga Nidra, qui est une pratique un petit peu plus axée sur la détente et qui se rapproche de la méditation. Alors moi, mon truc préféré, c'est de faire tomber un petit peu les mythes liés au yoga et notamment liés à l'anatomie dans le yoga. Ce qui va le plus me passionner, c'est comment se rapprocher un petit peu plus de la réalité des variations humaines que de la théorie des règles d'alignement assez rigides et assez classiques qu'on peut retrouver dans beaucoup de types de yoga différents, tout dépendant évidemment de l'attrait du prof pour ce genre de sujet. Donc le rapport à la science va, pour ma part, être plus axé sur le côté anatomique que le reste.
Ok, et quand tu dis côté anatomique, finalement, c'est avec ta sensibilité sur les variations anatomiques.
Oui, surtout ça, sur comprendre comment les gens sont faits, comprendre surtout que chaque personne est différente de son voisin et que on ne peut pas, si on recherche en tout cas une forme de yoga la plus durable possible, s'obstiner à vouloir faire la même chose que son voisin. Et ce que j'aime surtout transmettre, c'est cette variation universelle de chaque corps et le fait d'être parfois un petit peu plus indulgent avec soi quand on se rend compte qu'en fait, si telle posture n'est pas accessible pour nous, c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'est pas fait pour. Donc, la quantité de pratiques qu'on va pouvoir mettre derrière n'aura peut-être aucun effet sur notre progression ou non dans une posture. Et je trouve que ça permet, oui, de cultiver un petit peu plus d'indulgence avec soi-même. Et puis, de dédramatiser aussi certaines choses, parce que on a un stéréotype du yoga et de la pratique assez esthétique, et moi je prône pour l'éloignement de cette forme de recherche esthétique pour une recherche plus fonctionnelle dans le yoga.
Mmh. Oh, bah, c'est super, merci beaucoup Gwen.
Bah, moi de mon côté, Rémi, prof de Strala Yoga, formé par Gwen. Et...
c'est vrai.
Pas que. Pas que.
Et moi, mon lien yoga-science, il se fait pas mal parce qu'à côté, je suis aussi créateur de contenu. Je vais bloguer sur la santé en général. J'ai commencé avec la nutrition. Et puis, ça m'a amené à m'élargir et à aller chercher un peu du côté des neurosciences, du grand domaine des comportements. Et en fait, il y a pas mal de connexions à faire avec le yoga. Il y a pas mal de choses chouettes. Donc, c'est assez fun de pouvoir lier ce que je fais sur le tapis à éventuellement des effets un petit peu plus généraux, en fait.
En tout cas, ce que je trouve intéressant dans votre parcours à tous les deux, c'est qu'en fait, on voit que vous... c'est pas que vous êtes spécialisés, mais vous avez quand même choisi un cheval de bataille différent, mais finalement, quand même assez basé sur la science, sur l'anatomie, sur la biomécanique, sur le fonctionnement du cerveau. Et donc, comment est-ce que ça a été motivé ? C'est-à-dire que pour vous, pourquoi est-ce que c'est important finalement de faire des liens et de comprendre ces liens entre yoga et science ?
En fait, pour moi, ça peut parfois créer des déclics de dire que telle chose est liée à ses effets. Et je prends pour exemple l'alimentation. On peut être un peu piégé par l'entre-soi et se dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'alimentation, elle a un impact sur absolument tout et pas forcément juste la santé, mais aussi le niveau d'énergie qu'on a dans la journée, l'humeur, etc., le sommeil, le stress. Parfois, on a des personnes qui ne le savent pas et qui, en le découvrant, vont avoir les ressources qu'ils peinaient à avoir pour améliorer leur alimentation jusque-là et créer le déclic. Et du coup, ça peut être hyper intéressant de se dire, ah, ok, le yoga qui traîne un peu moins, mais quand même encore cette espèce d'image d'étiquette de sport à mamie, qui en fin de compte, aujourd'hui, est le truc ultime pour, par exemple, se protéger un petit peu du problème d'attention qui nous guette un peu, qui nous guette tous, je pense. De se protéger du trop-plein, pareil, qui nous guette tous. En fait, ça peut être un super poids de l'autre côté de la balance pour tout un tas de choses qui vont un peu nous esquinter, en fait, entre guillemets, dans nos journées. Et parfois, le savoir nous amène à la pratique. C'est quelque chose dont on va faire l'expérience et qui va, du coup, après, peser par ce qu'on a ressenti quand on pratique. Mais des fois, ça peut savoir ce qu'il y a derrière, nous y amener en premier lieu. Du coup, je trouve ça assez intéressant de pouvoir créer une connexion honnête entre des vraies données, des choses pas attribuer tout et n'importe quoi au yoga.
Oui.
Y a des choses chouettes à dire. Ça sert à rien, je pense, de broder et d'aller vraiment trop loin. Du coup, voilà, je pense que l'intérêt, il peut être là. Sans en faire quelque chose de trop nerd, tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Trouver la balance aussi pour que ça plaise aux gens, puisqu'on ne fait pas tout par calcul, par optimisation, entre guillemets. Mais trouver quand même des petits bénéfices tangibles qui peuvent être là et se dire « Ah oui, bah, je vais m'y mettre, je vais essayer ça. »
Et pour toi, Gwen, c'est à peu près la même chose ou c'est un petit peu différent ?
Moi, j'aurais tendance à parler des fausses allégations scientifiques qui sont liées au yoga. Et moi, ce qui me semble intéressant de faire, c'est d'aller creuser un petit peu plus en profondeur et de pas forcément casser, hein, parce que tout n'est pas à casser, mais en tout cas mettre de la nuance dans ce qu'on nous dit, parce que parfois on a l'impression que le truc très basique dans une posture du guerrier 2, si on amène le genou au-delà de la cheville, t'en as déjà parlé dans le podcast, le genou va exploser et va se détruire, c'est une catastrophe.
C'est l'autocombustion.
Et en fait, c'est dommage parce que ça entraîne une forme de peur du mouvement pour certaines personnes qui se disent que si elles ne font pas la posture parfaitement, elles risquent de se blesser. Donc, c'est aussi remettre en question le potentiel de résilience du corps. Et ça, c'est dommage parce que le corps peut se régénérer d'une façon extraordinaire et que, justement, la variété de mouvements va stimuler cette résilience. Et donc, on va, sous prétexte de protection, un petit peu à outrance, donner l'impression que le corps est fragile et faire peut-être perdre confiance aux pratiquants dans les capacités de leur propre corps. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce lien entre le yoga et la science, c'est d'aller vraiment chercher ce qui se passe en réalité avec de la preuve scientifique pour essayer de faire tomber des fausses allégations pseudo-scientifiques et aller récupérer des vraies infos sur le fonctionnement du corps, la biomécanique, effectivement, et qu'est-ce qui est dangereux. La plupart du temps, la pratique du yoga n'est pas dangereuse, sauf exception, mais et de dédramatiser un petit peu aussi tout ça pour laisser plus de liberté aux gens dans leur façon de bouger.
Je trouve que c'est très juste ce que tu dis, parce qu'on on les voit passer aussi, hein, toutes ces allégations magiques où la posture de la pince guérit de la dépression, guérit le cancer du petit doigt. Enfin, c'est vraiment assez, assez incroyable. Et c'est vrai que je comprends tout à fait votre recherche à tous les deux que je partage, hein, d'essayer d'un petit peu plus comprendre. Mais à l'inverse, est-ce que, alors je ne fais pas du tout l'avocat du diable, mais je trouve que c'est intéressant justement d'explorer un petit peu tout ça, est-ce qu'à l'inverse, ne pas s'appuyer sur des données scientifiques pour sa pratique de yoga peut poser problème, selon vous?
En fait, pour moi, c'est justement, c'est l'inverse, parce que cette idée de vouloir tout contrôler, tu sais, ouais. En fait, pour moi, elle n'est pas scientifique, puisque justement, tu commences à plonger dans l'anatomie, tu te rendras compte que ça, c'est anti-science, en fait. Mm-hmm. Le schéma, il nous aide à comprendre comment c'est, mais c'est tout. C'est comme de dire un atome, c'est une bille. Ça t'aide à comprendre, parce que sans ça, on est clairement absolument impossible de comprendre. Mais va voir un physicien, dis-lui un atome, c'est une bille. Je pense que tu le perds, quoi. Il fiche sur place, quoi. Donc, pour moi, justement, ouais, c'est l'inverse. Quand tu vas chercher du côté de l'anatomie, ta conclusion, c'est de laisser faire les gens. Et du coup, on aurait tendance, comme Gwen vient de le dire, à pas laisser faire les gens. En fin de compte, avec un discours un petit peu trop normé, trop dense en règle, eh ben, tu ne questionnes plus ton instinct, en fait, qui pourrait dire ça tire un peu là, ça... Et puis bah non, t'as dit de mettre ton bras plutôt comme ça ou ta jambe plutôt comme ça. En fin de compte, ta hanche, elle est peut-être pas du tout faite pour faire cette posture, tu vois. Et pourtant, bah si, on t'a dit ton genou il devrait toucher le sol. Ou... Pour moi, justement, les risques, ils sont là.
Et je pense aussi qu'il y a une espèce de dérive de notre époque qui fait qu'on a besoin de toujours tout justifier scientifiquement et d'attribuer des bénéfices santé à des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être pratiquées pour, comme tu disais, soigner la dépression, telle posture, tel machin. Le yoga, c'est quand même une pratique globale. Et puis, quand le yoga est apparu, la preuve scientifique, elle n'existait pas. Donc, le yoga est arrivé à une période où on était peut-être plus axé sur le ressenti du corps que sur l'argument marketing, parce qu'il y a ça aussi. Il y a l'argument marketing qui va te dire cette pratique-là, elle est bonne pour ça. Ces postures-là, c'est bon pour la détox, parce que la détox, c'est tendance. on sait de quoi on parle. Quand on fait une torsion, on est censé les détoxifier. Donc, on bascule dans un espèce de modèle où on essaye de trouver comment mettre de la science un peu partout. Et puis, on va aussi parfois éloigner les gens de leur propre corps en balançant ces infos-là. Parce que au lieu de se laisser guider par leur propre ressenti, leur propre sensation, ils vont peut-être se laisser guider par le message et aller chercher certaines choses dans certaines postures qui n'existent pas réellement. Ceci étant dit, on a aussi la puissance de l'effet placebo qui peut parfois créer des petits miracles qu'on n'explique pas réellement. Et donc, peut-être que pratiquer telle posture quand on est convaincu que ça va avoir un effet sur le corps, ça peut avoir un effet sur le corps réel. Donc, c'est à moduler. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux que ça dépend.
Mais exactement. Et moi, c'était vraiment ce que j'avais eu dans ma dernière formation de yoga avec Jason Crandall. Et ça a vraiment fait écho à un cours privé que j'ai eu il y a 2 jours. Où finalement, les cours privés, je trouve que c'est vraiment l'occasion de revoir certaines choses avec, avec les élèves. Et là, du coup, l'élève en question me demandait... Ben, quand je me relève de telle posture, est-ce qu'il vaut mieux que je garde le dos rond ou le dos droit? Et là, je me dis, ben, en fait, ça dépend. Qu'est-ce que tu cherches à optimiser? Qu'est-ce que tu cherches à ce moment-là? Comment tu te sens à ce moment-là? Et en fait, c'est exactement en proposant plutôt ces guidelines, entre guillemets, ces nuances, qu'on amène, un petit peu ce que tu dis, Gwen, à avoir finalement un peu plus d'autonomie pour l'élève, un peu plus de pouvoir pour sa pratique, ce qu'on a tendance à perdre, comme quand Lex et Rémi, quand finalement on a une pratique qui est ultra rigidifiée dans contracter, on disait en off avant de commencer, mais contracter votre triceps latéral, enfin, des choses qui finalement sont hyper analytiques et ne font aucun sens au niveau fonctionnel.
Ouais, sachant qu'en plus, pour moi, dans ce qui va peser, parce que on pourrait se poser la question, pourquoi le yoga fait des choses? Et qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui fait que si je suis debout et que je marche, il ne se passe rien, mais que si je me pose sur un tapis et que je fais un guerrier 2, il se passe quelque chose? Parce que si on lit le yoga à des bénéfices, il y a bien quelque chose dans le yoga qui déclenche ces bénéfices. Et pour moi, un des plus grands leviers, c'est une combinaison, donc c'est toujours un nœud, on ne peut pas tout démêler, il nous faudrait des heures et des heures et des heures et des heures pour tout démêler, pour s'apercevoir qu'en fin de compte, démêler, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, un des leviers les plus impactants, c'est l'état de flow. Et c'est vraiment l'état de flow qui, par exemple, va changer la manière dont ton cerveau, c'est très schématique ce que je veux dire, mais va redistribuer l'énergie entre ces différentes parties et va amplifier certaines activités, chanter d'autres activités, etc. Et c'est ça qui fait que l'état de flow est ce qu'il est et qu'il se fait sentir comme il se fait sentir. Alors, l'état de flow, en pratique, c'est très facile sur un tapis de yoga. Si tu es concentré justement sur tes ressentis et que tu te dis « Ok, en fait, je fais du yoga pour moi, dans mon corps, à moi ». Donc, mon but, c'est de me sentir bien. Donc, par exemple, triangle inversé, j'ai pas la torsion de la personne à côté de moi, j'ai pas la souplesse de la personne de l'autre côté. Je vais sortir ma main du tapis, ça va me donner un peu plus de place et je vais pouvoir faire ma torsion comme il faut. Au final, tu te sens bien là et tu as fait attention à comment tu te sentais. Donc, tout le long, tu as été connecté à toi et tes ressentis. Bah, ça, c'est l'autoroute de l'état de flow, en fait. Donc, pour moi, la connexion à son ressenti versus suivre une checklist qui restera toujours la même parce que tu pratiques pour telle ou telle chose et que ça se fait comme ça et pas autrement, etc. Pour moi, on y perd. Donc, le levier le plus important pour moi, c'est l'état de flow. L'état de flow, c'est être dans son corps, ses sensations et c'est tout. Pour moi, il y a des voyants qui s'allument, qui doivent s'allumer justement quand on fait appel à la science et des voyants qui doivent s'éteindre, tu vois.
Tout à fait. Non, mais c'est très intéressant. Et du coup, en rentrant un petit peu plus dans le sujet de la science, vous avez dû déjà lire ou remarquer qu'on a des témoignages individuels des personnes qui, un peu peut-être poussées par l'effet placebo, comme disait Gwen, hein, mais vont avoir des effets extraordinaires par rapport au stress, au mal de dos, au mal de ventre, peu importe. Et finalement, des résultats d'études scientifiques qui vont être beaucoup moins concluants. Vous, est-ce que vous avez une théorie là-dessus? Est-ce que vous l'expliquez, cet écart, parfois?
Moi, je pense déjà que on a forcément des effets positifs à la pratique du yoga parce qu'on va mobiliser le corps et que c'est une des rares disciplines, alors on peut l'appeler comme on veut, discipline sportive ou pas, parce qu'on n'est toujours, on fait toujours pas partie du ministère des sports avec le yoga. Donc, Et quand on commence à dire que le yoga est un sport, on risque aussi de se prendre quelques petites réflexions. Cette pratique, en tout cas, c'est rare de trouver une pratique dans laquelle le corps bouge dans toutes les directions. Quand on fait du tennis, le corps va bouger de façon répétitive, d'une certaine façon. On va développer d'ailleurs une asymétrie plus importante au niveau musculaire parce que c'est toujours le même côté du corps qui est engagé. Bon, il y a beaucoup de choses dans les autres sports qu'on ne retrouve pas dans le yoga, ou en tout cas le yoga permet de sortir de ça, de sortir d'un mouvement dans deux plans ou alors d'un mouvement peu varié Et donc, forcément, ça va avoir un impact positif sur le corps de n'importe quel pratiquant de yoga et de n'importe quel type de yoga, parce que de toute façon, on l'aura fait bouger. Après, c'est difficile de mesurer cet impact dans une étude scientifique.
Totalement.
Mais il est réel, il existe vraiment, et il va être plus ou moins prononcé en fonction de comment on aborde le yoga. Est-ce que on fait du cours collectif, est-ce qu'on fait du cours individuel, et dans le cours individuel on va forcément avoir plus l'occasion de personnaliser la pratique selon le corps de la personne qu'on a en face, selon ses problématiques du moment, de l'accompagner vers des choses qui peuvent mieux lui convenir que quand on est dans un cours où il y a 10-15 personnes devant. Et donc, moi, je ne suis pas du tout étonnée que les bénéfices du yoga soient éprouvés par les pratiquants. Et je pense, enfin, nous, on s'en est rendu compte. Hein, en général, les gens qui viennent au cours, au bout d'un certain nombre de sessions, ils commencent à se sentir mieux. Le mal de dos, effectivement, se s'atténue parce qu'on vient ramener des mouvements qui sont complémentaires au lieu d'être tout le temps dans le même mouvement de flexion de la colonne. Jour après jour, derrière un ordinateur ou derrière un bureau ou derrière une caisse enregistreuse. On passe un peu notre vie dans cette posture. Donc, le changement de posture va être forcément positif pour les pratiquants de yoga. Et on va aussi faire restaurer peut-être l'équilibre un peu entre la mobilité et la stabilité. Donc, récupérer de la souplesse quand on est un peu raide, récupérer de la force quand on est un peu souple et qu'on a peu de force. Donc, ça va, c'est une discipline qui va vraiment permettre de retrouver une forme d'équilibre dans le corps. Après, c'est pas en faisant du yoga qu'on va se retrouver avec des énormes biceps, faut pas se leurrer. Il y a d'autres pratiques à rajouter pour aller dans cette voie. Mais en tout cas, pour le fonctionnement optimal du corps, moi, je pense que c'est la pratique qui va être la plus utile, en tout cas, et qui va être peut-être la plus impactante au début, en tout cas. Après, on atteint toujours le plateau où, finalement, on a un petit peu moins de bénéfices parce que c'est surtout qu'ils sont moins flagrants. Si on est arrivé avec un mal de dos et qu'au bout de, 4-5 séances, on a moins mal au dos, l'impact est énorme et si on continue à pratiquer, le mal de dos avec un petit peu de chance ne se représente pas et donc on va avoir un petit peu moins l'effet bénéfice énorme, mais l'entretien en fait est là en permanence avec cette pratique. Et c'est vrai qu'en termes d'études scientifiques, c'est hyper difficile à...
C'est très difficile. Parce que comme tu le dis extrêmement bien, et comme aussi l'a introduit un petit peu Rémi avec lui, son côté neurosciences, etc., c'est qu'en fait, il y a des choses que tu ne peux pas que tu peux pas mesurer, en fait. Et c'est vrai que des études, par exemple, sur le mal de dos, ça va être l'évaluation de la douleur, c'est assez simple à identifier. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'à 3 à 6 mois, on peut observer des effets bénéfiques sur la pratique. Mais en fait, à 12 mois, beaucoup plus long, en fait, il y en a quasiment pas. En fait, ils sont nuls, mais c'est exactement par rapport à ce que tu décris. Et c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est qualité de vie, en fait, par exemple, c'est un item qui est assez difficile à quantifier parce que finalement, la qualité de vie, ça englobe tellement de choses et tellement d'éléments qui finalement, parfois, sont liés à ta pratique et parfois pas du tout. Qu'en fait, c'est aussi une pratique très globale, comme on le sait, comme on l'a déjà dit. Et en fait, c'est hyper... C'est vrai que les études scientifiques, on va en parler un petit peu plus tard, mais elles sont quand même assez analytiques. C'est-à-dire qu'on cherche à prouver un point. Or, le yoga, parfois, peut-être qu'on y vient pour un mal de dos. Et en fait, on se rend compte que notre mal de dos, il reste là. Donc, on utilise d'autres choses pour le mal de dos. Mais que par contre, ça nous fait un bien fou sur notre sommeil. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça?
Complètement. Et puis, tout dépend du protocole en lui-même, en fait. Et des fois, on s'aperçoit qu'il y a des protocoles aberrants. Vous allez dire que je radote, mais l'état de flow, concrètement, si tu considères que c'est un des leviers les plus importants des bénéfices, et si dans ton protocole, en fait, on t'a fait faire un cours de yoga, justement, basé sur les alignements, et on t'a dit quoi faire au degré près, au lieu de te concentrer sur toi et de faire comme toi, tu le sens, t'es passé complètement à côté de l'état de flow. T'as même très probablement créé du stress dans des étirements qui t'étaient pas forcément les mieux adaptés et aussi dans un truc où bah, c'est un peu rigide, quoi. Donc, si tu viens pour te détendre et qu'en fin de compte, tu ressors ou t'as eu l'impression de bosser, quoi, carrément, c'est différent. Donc, tout dépend aussi du protocole. Et en fait, le yoga est un peu trop vaste pour qu'on puisse dire le yoga, ça fait ça. Bah oui, mais quel yoga, dans quelles circonstances, de quoi on parle, des protocoles complètement absurdes. Il y en a plein, et il y en a plein au cœur même, à l'origine, je dirais même, de discours de terrain qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle La Bible de la préparation physique. Un gros bouquin. Extraordinaire et qui démontre deux trois petites choses, et notamment par exemple le mythe du il faut surtout pas s'étirer avant la musculation sinon tu perds de la force. C'est quelque chose que tu entendras, c'est dit et redit de génération en génération, de formateur en formé qui devient formateur et dit la même chose à ses formés, etc. Et en fait, ils se sont intéressés aux premières études qui nous ont amené dans cette direction là et en fait le protocole était complètement absurde. J'ai plus à la minute près le truc, mais en gros, ils se sont occupés du mollet et ils ont étiré le mollet. Je crois que c'était 1 minute 15 d'étirement, 30 secondes de repos, et ils ont fait ça pendant presque une demi-heure. Le mollet, t'en faisais une écharpe, tu faisais trois tours autour de ta tête.
Attends, mais ça me paraît de fou, quoi.
Et après, ils ont mis le pauvre gars, ils ont mis le pauvre gars sur un exercice de force. Sur les mollets, tu parles, il était sauré, le pauvre type, quoi. Et donc, du coup, ils ont dit ah! Étirement avant la musculation, pas bien. Derrière, étant donné que ça partait de gens assez éminents, bah, c'est toujours ça le problème, c'est que les études d'après viennent un peu essayer de se mettre dans le sillon qui a été tracé pour confirmer, etc. Et donc, en fait, déjà, d'une part, personne n'étirera chaque muscle 30 minutes, chaque muscle, avant de faire de la muscu, et d'autre part, on s'est rendu compte qu'après 10 minutes, l'effet malus, entre guillemets, s'annule. Donc, tu te retrouves avec une étude à l'origine d'un discours de terrain qui a vraiment formé la manière dont on a conseillé les gens, qui est en fait complètement débile. Complètement débile. Et moi, j'ai toujours dit que le jour où Netflix me payait suffisamment, je pouvais montrer par une étude très bien faite, on pouvait prendre 10 000 personnes, aucun problème, que Netflix était plus sain pour ta santé cardiovasculaire et pulmonaire, respiratoire, que la course à pied. Parce que mon groupe Netflix, il reste bien au chaud, et mon groupe coureur, je l'envoie en heure de pointe faire un footing dans le centre-ville de Pékin. Et il se prend des gaz d'échappement, a pu pouvoir respirer, et au bout de 30 ans, je lui dis « Ouais, bah, t'as vu, le groupe course à pied, il fait un peu la tête, quoi. Mm-hmm. » Faut toujours faire attention au protocole.
Mais c'est ça, et de toute façon, on a tous en tête, notamment au niveau de l'alimentation. Rémi, tu parlais un petit peu d'alimentation tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu des études qui ont démontré que le sucre, c'était très bien, que le Coca-Cola, c'était très bien. Mais en vrai, il faut voir les financements, etc. Et justement, par rapport à ça, parce que finalement, maintenant, on a quand même beaucoup de possibilités d'avoir accès à des études scientifiques, etc. Comment est-ce que vous arrivez justement à avoir vos filtres, vos lunettes pour décrypter les études scientifiques qui valent la peine d'être lues, d'être peut-être explorées un petit peu, et celles où vous vous dites, là, il y a des gros drapeaux rouges et finalement, peut-être on va la laisser de côté.
Pour moi, déjà, il faut la lire. Il faut la lire un minimum, alors, parce qu'il y a un...
Très important,
ouais, ça. Il y a un comportement qui s'acquiert très facilement, qui est de scroller jusqu'à la conclusion. Et lire la conclusion. Déjà, ça peut te permettre, après avoir lu cette fameuse étude sur l'étirement du mollet, de te dire « Ah ouais, surtout pas s'étirer, la conclusion, elle est unanime. » quoi. Donc, déjà, lire l'étude, regarder le financement. Que ouais, moi, une étude qui me vante les mérites des produits laitiers, si elle est financée par Danone, ou enfin, moyen bof, quoi. Voir déjà si le scientifique en question n'est pas, en fait, maintenant, tu vois, là, je sors de recherche sur les probiotiques. C'est un vaste sujet avec des pour, des contre, etc. Bah, effectivement, il y a pas mal d'études où tu retrouves souvent le même scientifique qui dit « Ah, lui, il est très actif sur le sujet. Ah oui, bah, il vient d'être pris comme consultant par telle boîte de probiotiques. » Peut-être pas étonnant qu'il aille créer des petits protocoles sympas qui mettent telle ou telle chose en évidence, tu vois. Donc, effectivement, regarder qui a financé l'étude, Après, je pense que c'est important, en fait, au bout d'un moment, d'avoir une petite liste de gens en qui tu as confiance en termes de démarche scientifique et où tu dis, ah, ok, bon, déjà, si lui, il m'en parle, peut-être que ça vaut le coup, quoi. Je le vois mal laisser, avec un trou dans la raquette, laisser passer un truc absurde. Pour la nutrition, tu peux en trouver quelques-uns. Pour l'anatomie, tu peux en trouver quelques-uns. Pour le yoga, pareil. Tu vois, Bernie Clark, dans un de ses livres, il me parle d'une étude qui veut dire tel ou tel truc. Ben, je ne vais pas forcément beaucoup la remettre en question au début parce que je me dis, bon, c'est Bernie Clark, j'ai confiance en lui, je sais qu'il a un haut degré de fiabilité, quoi. Donc, il y a aussi ça, peut-être que des fois, parce que pareil, pour comprendre des protocoles, des fois, c'est très compliqué. Hein. Donc, ça ne suffit pas, on ne peut pas tous comme ça lire l'étude et faire, ok, je donne un score de fiabilité, moi, de ma petite personne. Mais par contre, tu peux regarder si cette étude, elle a été reprise dans des journaux qui, justement, des fois, parlent d'études. En nutrition, tu as pas mal de journaux comme ça, comme la nutrition.fr ou le site de Thierry Soucard. Des fois, l'article en lui-même, c'est parler d'un article. Mais un article scientifique difficile à lire, assez velu. Et ils viennent plutôt te dire, bah, d'après un article, et ils te font une espèce de vue d'ensemble. Donc, quand tu trouves certaines sources comme ça, bah, c'est très précieux, en fait. Tu avances, c'est un grand pas, en fait, vers l'accès à des informations plus fiables.
Puis l'indépendance de la personne qui soit met le nez dans l'étude et tire des conclusions, soit réalise l'étude, parce que ça dépend évidemment de l'objectif de la manœuvre. Si c'est une grosse boîte qui a commandité une étude, peut-être qu'il faut faire attention aux résultats et surtout aux biais qui sont insérés pendant la tenue de l'étude. Après, si c'est quelqu'un qui est là simplement pour la recherche pure, ben, c'est très différent, en fait.
Ouais, totalement. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que les scientifiques ne sont pas infaillibles et que des fois, il y a des énormes coquilles qui passent, un peu comme quand tu as écrit un texte et que tu l'as relu 20 fois et que tu passes devant la même faute et tu la vois plus, en fait. Alors que quelqu'un qui n'a jamais lu ton texte va dire, mais il y a une énorme faute. L'étude pionnière qui nous a fait dire le sel, c'est pas bien, et qui nous a envoyé dans cette direction-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème. Ils avaient pris dans les populations observées des populations qui vivaient sur une île vraiment reculée et qui avaient un gène protecteur du cœur incroyable. Et donc, en fait, c'est le fait d'inclure ces populations a complètement ruiné la lecture de l'étude. Nous, on s'intéresse pour cette étude-là à savoir si les populations occidentales, par exemple, plus précisément, ont un intérêt à consommer du sel ou justement ont un intérêt à éviter le sel. Et en fait, quand on retire ces populations, la conclusion est inverse. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le côté le sel, c'est pas bien. Bah, c'est pas bien, en fait, de vouloir limiter notre sel, c'est pas une bonne chose. Et ça, je pense pas que ça ait été... puisque, en plus, ça a fait diminuer les consos de sel. Donc, en fait, tu peux même pas dire qu'il y a une industrie qui a bénéficié et qui, du coup, avait intérêt à ce qu'il y ait un petit biais bien planqué. Les scientifiques, des fois, sont pas forcément infaillibles. Et donc, du coup, tu peux te retrouver avec des pépins. Donc, des fois, le temps aussi sert. Un truc qui vient tout juste de sortir... Des fois, c'est intéressant d'attendre qu'il y ait, que ce soit reproduit déjà, ce qui valide une étude théoriquement, et puis de voir ce qu'on en pense, ce que les spécialistes du sujet en pensent avec un petit peu de recul, le temps d'avoir miné sur les données, etc.
Mais c'était ce qui s'était passé avec le bouquin Mindset de Carol S. Dweck, je ne sais pas si vous avez... Bon, en fait, sa première version a été totalement pas démentie, mais en fait... Je crois que c'était des universités chinoises qui avaient essayé de reproduire ces protocoles et qu'en fait, ils s'étaient rendu compte que ce n'était pas du tout les mêmes conclusions. Donc après, là, on est sur des cultures différentes aussi, des nationalités différentes, des systèmes aussi d'éducation différents. Donc, Carol S. Dweck, qui pour moi a vraiment fait son job de chercheuse, elle a dit, bon, ben, ok, on retravaille dessus. Et du coup, les autres versions de son bouquin ont été enrichies finalement par ces nuances finalement apportées, mais c'est hyper important de rappeler ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une étude va dire que le yoga est extraordinaire pour soigner l'hypertension que tout de suite ça devient le truc à faire pour l'hypertension. Et il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention, comme vous l'avez très 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 justement dit, mais aussi le temps, parce qu'en fait la démarche scientifique, c'est aussi reproduire des choses, arriver à voir si finalement dans le temps aussi ça fonctionne. C'est souvent on voit finalement qu'il y a eu une population qui a eu tel essai à un instant T, et en fait on essaie de la retrouver 20 ans plus tard pour voir quels sont les effets. Et en fait on se rend compte parfois que c'est pas du tout les conclusions auxquelles on s'attendait, et ça prouve beaucoup de choses. Pour moi, ça prouve que finalement le corps est un ensemble, est un système où il y a plein de choses qui s'entremêlent, et que la science, comme tu le disais très très bien, en fait, évolue. Et en fait, on ne peut jamais être certain d'une chose. Et pour moi, c'est un peu ça, cette démarche scientifique. Et ce n'est pas juste regarder PubMed, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode avec vous. Finalement, si on scrolle, on prend une conclusion et on dit, regardez, il y a ça ou il n'y a pas ça. Alors que pour moi, c'est antinomique.
Et puis, il ne faut pas oublier que tu fais rarement une étude pour aller chercher dans une direction qui n'a jamais été explorée avec un panel gigantesque.
Exactement.
Donc, à chaque fois, si c'est quelque chose qui vient de sortir, si tu regardes bien, la cohorte, elle est toute petite et il va falloir attendre. Et généralement, les scientifiques l'admettent très probable. Enfin, dans 99% des cas, dans la conclusion, tu as « mais cela nécessite davantage de recherche sur des populations plus nombreuses, plus différentes ». etc. Parce que du coup, si on est pareil pour tout, c'est-à-dire que on est différent partout.
C'est ça.
Et donc, est-ce que 10 personnes te suffisent à couvrir toutes les grandes différences possibles, tu vois? Et si tu peux être différent en anat, tu peux être différent en bio, et s'il y a un truc qui s'appuie sur l'anat mais qui concerne la bio, et ben du coup, t'as un coefficient multiplicateur qui fait que tu peux pas. Et puis, je trouve que c'est un peu malsain aussi de se dire, c'est bon, on a compris, on avance. En fait, on n'arrête pas de découdre. On va dans une direction, il y a un truc qui est trop bizarre, on découvre, on repart. Les premiers pas de la neuroanatomie, quand on essayait de savoir, telle partie du cerveau, ça fait ça, en fait, ça a été, on est allé un peu trop vite, parce que on part du principe que une partie du cerveau a forcément une fonction d'expression directe. Sauf que si tu as une partie du cerveau qui est juste là comme relais de l'information et que c'est elle qui est grillée, tu vas te dire « donc cette personne-là avait un tel problème, par exemple dans la parole ou des choses comme ça. » On regarde son cerveau, on voit une partie du cerveau endommagée, on se dit « ok, ça c'est le siège de la parole. » Est-ce que c'était pas juste le couloir, tu vois? Il y avait une image très chouette, j'espère que je vais réussir à m'en souvenir de manière exacte. C'était un prof dans un cours très cool qui nous avait dit ça. En gros, ça équivaut à dire que si tu appuies sur l'interrupteur pour avoir de la lumière dans ton salon et qu'il ne se passe rien, c'est l'interrupteur qui est cassé. Alors qu'en fait, tu n'as peut-être juste plus de jus, tu as peut-être l'ampoule est peut-être... Enfin, ça ne veut strictement rien dire, en fait, si on appuie. Et de toi-même, tu vas avoir cette réflexion-là. Et en fait, on ne l'a pas eu avec le cerveau. Et donc, il a fallu découdre énormément les premiers pas de la neuroanatomie parce qu'on était parti en courant... Sans prendre la peine de réfléchir à ces choses-là, quoi.
Mais je pense que c'est super important, et c'est ce que Gwen t'expliquait très bien, c'est qu'en fait, on pense que c'est simple, alors qu'en fait, tout est beaucoup plus complexe, et c'est ce que t'expliquais par rapport à l'anatomie, où en fait, on se rend compte des variations anatomiques qui peuvent expliquer totalement différemment certains phénomènes.
Ouais. Et la petite discussion que vous venez d'avoir tous les deux me fait penser des recherches et des choses qui ont été statuées en anatomie et qui ont été décousues aussi, des nouveaux modèles qui apparaissent parce qu'on a une technologie qui évolue et on va donc pouvoir analyser les tissus d'une autre façon. Au départ, on analysait des tissus morts et maintenant, on peut analyser des tissus vivants. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent entre les deux. Et donc, je pense qu'il y a aussi un vrai besoin d'humilité par rapport aux études et d'accepter que parfois, ce qu'on croyait être vrai, c'est pas que c'est plus vrai, c'est que les conditions ont changé et donc c'est pas parce que on a émis une hypothèse qui a été vérifiée à un moment donné Et que c'est remis en question au bout d'un certain temps par différentes choses, la technologie ou d'autres choses qui font qu'on a accès à des données différentes, ben, ne pas forcément s'obstiner à garder cette vision alors qu'elle a été décousue, défaite, parce que ben, ça peut créer des problèmes de rigidité dans la pensée qu'on peut avoir et dans les concepts qu'on a, qui doivent en fait évoluer, et c'est normal de les faire évoluer au fur et à mesure, et on peut pas jeter la pierre à quelqu'un qui a fait une hypothèse à un moment qui a été confirmée au même moment et lui dire bah, en fait t'avais faux, c'est pas ça quoi. C'est hyper difficile, je pense, d'avoir émis une hypothèse et puis de la voir s'effondrer quelques années ou quelques siècles plus tard. Mais en tout cas, admettre qu'on a pu avoir tort, que ce n'était pas volontaire, c'était lié au contexte. Et donc, de faire son maximum pour évoluer aussi avec... les progrès qui font qu'on a d'autres choses à se mettre sous la dent et qu'on va donc pouvoir faire des études différentes avec peut-être des résultats différents.
C'est super important que tu rappelles ça, et pour moi c'est aussi un peu la voie du yoga, enfin, c'est-à-dire essayer d'être humble, essayer d'être à la recherche, une perpétuelle recherche, et c'est super important que tu le rappelles. Pour essayer de clôturer un petit peu cette partie sur la science, est-ce que vous avez des recommandations sur des livres, des sites, des podcasts pour approfondir un petit peu le sujet, permettre d'aiguiser aussi un petit peu sa conscience des choses? Je pense que j'ai déjà une idée de ce que vous allez me dire, mais je vous laisse nous partager ça.
Ah bah, du coup, moi, je vais commencer par l'aspect anatomie avec forcément l'inénarrable Bernie Clark.
Dès que vous voyez un t-shirt, vous me le dites.
Oui.
Bon, on est preneurs. qui a du coup édité 3 bouquins qui sont en fait correspondent à 5 tomes qui sont regroupés en 3 livres sur l'anatomie abordée de façon fonctionnelle, donc avec notamment le détail des variations anatomiques. Donc, on sort de l'anatomie traditionnelle ou basique qu'on va apprendre à l'école quand on est petit, les rudiments, et puis après, quand on fait des études plus poussées, avec des choses qui sont forcément assez uniformes, parce qu'il faut bien apprendre et que envisager les variations, ça ne se fait que quand on a un socle suffisamment solide pour pouvoir s'en éloigner. C'est un peu comme adapter les postures de yoga, on est obligé de partir d'une base et puis après on peut s'en éloigner progressivement. Donc il y a de mémoire le premier livre qui contient 2 tomes qui est édité en français, et les autres qui ne sont pas encore édités en français.
Non.
C'est ça, hein, c'est pour moi des pépites vraiment de bon sens aussi, et qui permettent de déculpabiliser, dédramatiser, faire comprendre, d'où peuvent revenir, ça y est, je bug, ce qu'on ressent dans les postures, en fait. Qu'est-ce qui fait que dans cette posture, on se sent bien, cette posture, on n'y arrive pas. Donc, c'est très, très intéressant. C'est un petit peu velu, comme dirait Rémi, quand on n'a pas du tout de notion, ou alors qu'on n'est pas très passionné par ce sujet-là. Donc, pas forcément très abordable à la base. Si on a envie d'apprendre, je pense que c'est vraiment des ouvrages à privilégier. Et puis, les ouvrages également de Blandine Calais-Germain, qui a fait un gros travail sur le mouvement et sur le yoga. Là, pour le coup, il y a plusieurs bouquins et c'est en français. Donc, c'est très riche comme littérature sur le corps, sur la respiration. Tu nous disais...
Il y a aussi un bouquin sur la respiration qui est en fait un petit peu comme celui sur l'anatomie yoga,
ouais,
qui sont en fait assez simples et assez
ouais, accessibles. Ça fait une belle première marche, je trouve.
C'est ça.
En plus de mémoire, le premier bouquin, tu as déjà de toute manière 3-4 pages sur les différents plans pour pouvoir te repérer. Et comme si c'était vraiment un petit cours débutant, mais qui t'amène quand même relativement loin. sans que tu t'en aperçoives. Et ouais, carrément, c'est hyper bien fait, quoi. C'est en termes de... Parce que des bouquins, on pourra en acheter pour des centaines et des centaines d'euros. Et je trouve que ça, c'est vraiment les bouquins qui valent ce que tu dépenses, quoi. Concrètement, les trois bouquins de Bernie Clark, de là à ce que tu les essaurais, il s'est passé un moment. Et pareil pour Monica Légèrement, sachant qu'en plus, tu retournes toujours dedans.
Voilà, c'est ça.
Tu retournes toujours dedans. Toujours à un moment, tu te dis,
toujours des questions.
Des fois, on discute en faisant manger. Et puis, on se retrouve devant le bouquin, à l'ouvrir et à chercher. Enfin, non, c'est des super bouquins.
Donc, c'est vrai qu'en ressources, j'aurais tendance à me diriger vers ces deux-là. Peut-être mettre Blandine Calais-Germain en premier pour l'accessibilité. Et puis après, pour aller plus loin, les livres de Bernie Clark.
J'aime bien aussi le livre de Bernie sur le yin, parce qu'il amène la notion de fascia de manière vraiment hyper abordable et pourtant poussée. Donc, je le trouve vraiment chouette aussi pour compléter le tableau. Là, je suis en pleine de relecture et je m'éclate vraiment. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Et il change ta manière de pratiquer, je trouve. Il te remet un petit coup de conscience qui fait du bien.
Ok.
T'as le bouquin ?
Non.
Moi, j'ai d'autres bouquins.
Après, ça peut être des podcasts, ça peut être autre chose, c'est toi.
Après, en commun, je pense qu'on aura Tara Stiles qui sort quand même des bouquins assez intéressants, qui, elle, va être beaucoup dans le pragmatisme. Et en même temps, elle n'en a pas l'air, mais elle débite quand même pas mal d'études. Elle bac beaucoup avec des études, ce qu'elle avance. Et en plus, elle a la chance d'être amie avec quelques chercheurs qui justement sont vraiment derrière elle à chaque fois pour backer ce qu'elle dit, ou alors en amont ils travaillent ensemble et ils sortent des trucs cool. Donc c'est de la science sans qu'on s'en rende compte. Elle écrit super bien, c'est très parlant. Son bouquin de formation, en fait, il est dispo sur son e-shop et sur Amazon, et il est dense, il explique très bien le yoga et justement le Strala Yoga notamment, et les petits bénéfices qu'il y a à récupérer derrière. Donc ça n'en a pas l'air, ça n'a pas la tronche d'un bouquin de scienteux où t'accumules, tu sens que ton cerveau se gonfle, se gorge en connaissances scientifiques, et pourtant, ce que tu vas lire, ça ne va pas être sorti comme ça parce que ça sonne bien, ça ne va pas être des petites allégations un peu légères.
Alors moi, je mets un petit veto. Privilégier les versions anglaises parce que les traductions françaises sont catastrophiques. C'est quasiment pas les mêmes livres.
Je pense que ça sert à rien de le lire en français, quoi. Si
en français, c'est assez plat et ça reste très superficiel, là où la version originale est plus fouillée, plus intéressante à mon sens. Donc peut-être à garder pour les lecteurs qui sont à l'aise avec la langue anglaise, parce que sinon on risque de se faire un peu une mauvaise idée du sujet et de se dire que c'est peut-être un peu léger.
Ouais. Donc, sachant que c'est un anglais accessible, ça te demande pas d'être vraiment. C'est une des premières lectures que tu peux enchaîner en anglais. Il y a aucun problème. Mais effectivement, on en parlait dans l'épisode sur le Strala. En fait, les concepts de Strala sont vraiment trop ancrés dans l'anglais pour être facilement traductibles. Et du coup, là, on voit, ça passe pas.
Ça passe pas du
tout. Et puis, moi, sur le dessus de tout ça, j'aime beaucoup Andrew Huberman.
Oui.
Et alors, il n'a pas consacré énormément d'épisodes de son podcast au yoga, mais par contre, il est assez fanat de ce qu'on appelle le non-sleep deep rest. Et en fait, c'est du yoga nidra, concrètement. Donc, il a des petites séquences yoga nidra hyper intéressantes dans ses podcasts. Il y revient souvent quand il est question d'attention. Il s'en sert pour ça. Et du coup, pour ce domaine-là assez spécifique, Huberman est vraiment cool.
Ok, super. Moi, j'en ai une dernière. Oui, peut-être que vous connaissez le livre de Dr. Yogi sur la physiologie du yoga. Parce qu'encore une fois, tout est lié. Et je trouve que c'est vrai, autant on parle beaucoup d'anat, mais c'est vrai que parfois, on met de côté un peu la physio. Et du coup, ça manquait. Donc, c'est une chouette lecture. Après, pour l'instant, il n'est qu'en anglais, je crois, de mémoire. Bon, il est un peu fouillis, enfin, comment dire, il y a beaucoup d'encarts sur les études scientifiques, donc parfois ça peut être assez fastidieux pour les personnes qui n'aiment pas forcément, parce que c'est vrai que c'est pas fun à lire, entre guillemets. Là, tu vois vraiment qu'il y a de la science, pour le coup, c'est pas très fluide. Mais par contre, c'est très intéressant, déjà pour démêler un petit peu le vrai du faux au niveau des études, ou prendre un petit peu de recul. Et puis aussi, il y a toujours la première partie où il explique simplement système respiratoire, système digestif, système nerveux, et je trouve que c'est toujours important d'avoir ça en tête quand on pratique, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, tout est lié.
Et oui, nous sommes une belle machine.
C'est ça, c'est incroyable quand on y pense. On va partir tranquillement sur la dernière partie où là j'aimerais avoir un petit peu, on va aller un peu plus loin et avoir votre avis sur, selon vous, quel est l'avenir de la recherche entre le yoga et la science.
Bonne question. Pour moi, il y a des choses qui vont aller vite parce que maintenant on arrive à les étudier en tant que telles. Par exemple, on parlait du yoga nidra. Les premières études, en fait, qui étaient faites sur le yoga nidra, ils mixaient yoga nidra et méditation. Sauf qu'en fait, même si le yoga nidra est une pratique méditative, ce qu'on fait avec la rotation de conscience crée quelque chose qui n'est juste pas là dans la méditation. La méditation a plein de bienfaits, ça dénigre absolument pas la méditation, c'est juste que c'est deux choses différentes. Et du coup, les résultats de ces études-là, ils sont l'impact du yoga nidra est noyé, en fait. Donc là, maintenant, par exemple, via des chercheurs comme Huberman qui s'est emparé du truc et qui, son podcast l'aide à financer beaucoup d'études, en fait, mine de rien. C'est ça qui est très chouette, c'est qu'en écoutant le podcast, on contribue à ça et que lui, il a la meilleure place pour lancer des choses, distribuer des subventions, donc c'est extraordinaire. Et maintenant qu'on a des gens qui, du coup, ont découvert le truc et qui ont l'opportunité de lancer des choses, par exemple, Yoga Nidra, on sait que les prochaines études vont être faites sur Yoga Nidra. Et donc, du coup, on va pouvoir aller plus loin. La méditation, c'est déjà le cas, mais pareil, il va y avoir des choses, ça commence à se restreindre. Il y a des gens assez influents qui se sont emparés du truc et qui ont commencé à vraiment préciser les protocoles pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Pour le yoga, je pense que ça va être encore un peu compliqué parce que il y a des gens qui vont dire « je vais étudier le yoga », qui n'ont pas forcément la fibre au yoga et qui ne vont pas forcément savoir connaître toutes les petites ramifications, les petites particularités, et qui vont juste dire il me faut un protocole, il faut qu'on trouve un prof, il faut qu'on dessine un cours, et il faut qu'on fasse faire ce cours. Sauf qu'en fait, on l'a dit dans notre échange, les petits réglages sont beaucoup plus fins que ça, et vont se passer dans le cours en lui-même, sur le moment. Donc ça mettra peut-être un petit peu plus de temps, mais on n'est pas à l'abri justement de pouvoir découvrir de plus en plus de choses. Il y a des choses qui se passent quoi qu'il arrive, comme par exemple, il faudra qu'on en parle pour toute la partie concentration. On s'est aperçu que les activités qui nous permettent de ralentir, comme le yoga, et là pour le coup, comme tous les yogas, il n'y a aucun yoga cardio, quoi. Enfin, il n'y a aucun yoga qui se pratique en courant.
Mais ouais, power yoga et tout.
Ça, à la rigueur, je pense qu'on prend quand même la petite heure pour ralentir sur son tapis. Mais effectivement, à la rigueur, ces formes un peu plus brutes, on les pousse. Mais on va dire 80% de ce qui sera fait sous la lentille d'un chercheur sera une activité qui nous permet de ralentir. Et on sait que ces activités-là, pour le coup, on marie pas mal le yoga avec le qigong, vont nous aider à récupérer un petit peu de ressources pour notre concentration parce qu'on ralentit un petit peu le débit. Et notre problème aujourd'hui, c'est que le débit de ce à quoi on est confronté est un peu trop rapide pour notre bande passante. Et donc, du coup, toutes les activités qui ralentissent visent à nous faire regagner des ressources au niveau concentration. Donc, il y a quand même des petites choses qui pop. Après, je pense qu'il va falloir qu'on attende un petit peu que les choses se précisent. Ouais. Tu vois, un peu comme quand on est arrivé sur les probiotiques et qu'on a étudié les probiotiques. En fait, c'est plein d'espèces de micro-organismes différents. Dans les espèces, il y a des souches différentes. Et donc, une souche peut avoir un effet, une autre souche peut avoir un effet différent. Donc, quand on s'est dit, allez, on va prendre des probiotiques, on va voir ce qui se passe. Et on n'a pas eu beaucoup de résultats vraiment qui convergeaient vers une direction.
Bien sûr.
Donc pour moi, on est encore dans cette phase où il faut un petit peu, c'est de la curation, un peu comme si tu prenais soin d'une plante, il va falloir encore élaguer un peu, quoi.
Et puis il y a sûrement des nouvelles problématiques qui vont être au cœur des nouvelles recherches. Donc, justement, tout ce qui est lié au déficit d'attention, dont on ne parlait pas forcément il y a quelques dizaines d'années, et donc qui va peut-être venir aborder les bénéfices du yoga sous un nouvel angle. Là, c'est vrai que dans cet épisode, on s'est pas mal focalisé sur l'aspect physique du yoga, mais en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent au niveau du mental, il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent au niveau respiratoire, donc il y a aussi des choses qu'on peut étudier sur ces différents systèmes qui sont sollicités dans une pratique de yoga. Et donc, ça va forcément évoluer en fonction, oui, de ce dont on a besoin maintenant dans notre société actuelle. Qu'est-ce qui devient important maintenant et qui n'était pas forcément avant.
Ouais, puis avec l'émergence aussi de certains concepts, enfin, on parlait des fascias. Les fascias, c'est nouveau, entre guillemets, sous la lentille des chercheurs. C'est nouveau. Là, on vient tout juste de s'apercevoir qu'en stimulant fascia vraiment de manière très localisée, spécifique, via l'acupuncture, on pouvait créer des effets anti-inflammatoires. Tout juste maintenant. Alors que les fascias, on en parle depuis une quinzaine d'années maintenant. On commence tout juste. Alors que l'acupuncture, ça a été pratiqué, enfin, c'est pratiqué depuis toujours. Donc, que ces deux choses-là se rencontrent et aboutissent à quelque chose, jouer sur l'inflammation, c'est un des leviers les plus importants de notre époque, quoi. Donc, effectivement, la science a son timing, quoi.
Mais c'est très vrai. Et ce que tu disais, Gwen, c'est très juste aussi. C'est-à-dire que là, on est dans une époque où, finalement, il y a nos problématiques nouvelles qui émergent. Et du coup, fatalement, la science aussi va venir s'intéresser sur les nouvelles problématiques. Est-ce que vous, si vous deviez, identifier chacun une problématique, vraiment, vous vous dites, non, mais là, c'est vraiment sur cette problématique-là que tout va se jouer au niveau du yoga, ce serait quoi si vous deviez faire un pronostic?
Tu te lances, je me lance.
Vas-y, lance-toi, c'est dur.
Moi, je dirais, alors, je vais tricher, je vais prendre un truc hyper large parce que j'ai plein d'idées, mais ça regroupe tout dans ce truc hyper large. Ralentir. Mais en fait, dans ralentir, je pense beaucoup à l'attention et ce que ça va pouvoir créer sur l'attention et ce que ça va pouvoir créer sur, c'est lié à l'attention, sur le fait de se faire absorber aujourd'hui. On vit presque dans la matrice, en fait. Et des fois, la journée passe très vite parce qu'en fin de compte, on n'a pas eu de temps à nous, on a été vraiment... absorber, coller un autre truc, et on a fait ça toute la journée. Et je pense que justement, le yoga va avoir un énorme rôle pour nous aider à récupérer. Parce que, comment dire, le marketing ne cesse d'utiliser tous ces biais auxquels on est sujet, via notamment l'impact et le système de la dopamine. C'est un grand sujet, on ne va pas l'ouvrir, mais concrètement... on a encore des chercheurs qui trouvent des nouvelles petites lignes de code qu'on va intégrer et qui vont nous coller encore plus à nos écrans. Dans le livre dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Stolen Focus de Johan Hari, il a justement rencontré le codeur qui a inventé cette petite ligne de code qui fait que maintenant, on a le scroll infini. Le scroll infini, on l'a vu dans notre temps passé sur les écrans. On a vu, c'est un peu comme l'invention de l'allumette pour les forêts, tu vois.
Mais moi je me mets toujours à la place du mec qui a inventé ça. Je veux pas croire qu'il ait été vraiment malveillant en mode en fait pour lui c'était une prouesse technologique, il était trop content de lui.
Complètement.
Et là, en fait, il doit être là en mode
qu'est-ce que j'ai fait. Mais bon, malheureusement, on l'aurait inventé tôt ou tard. Mais effectivement, en fait, il y a un message très chouette dans ce bouquin qui est on n'est pas tout seul contre notre téléphone. Il y a 20 des meilleurs ingénieurs, 20 des meilleurs codeurs derrière ça. Et ils sont très, très forts, beaucoup plus forts que notre volonté. Donc, effectivement, je pense que le yoga a un rôle à jouer là-dessus parce que ça ne va pas s'arrêter. Déjà, c'est très, très puissant, mais ça ne va pas s'arrêter de gagner en puissance. Et je pense que le yoga, en nous collant sur un tapis la tête dans nos sensations, a un énorme rôle à jouer. C'est vraiment, c'est les Avengers, quoi. C'est... c'est la défense de toute la planète, tu vois. Pour moi, il y a un truc à faire là. Et après, plus spécifiquement, sur notre faculté à se concentrer. Mais déjà, notre faculté à rester un peu au contrôle et à ne pas se faire trop balloter. Bon, ça sera mon choix.
Ça sera ton cheval de bataille. Voilà. Et toi, quoi?
Moi, forcément, je vais aller dans la direction du corps moi, ce qui m'interpelle, c'est les capacités de résilience du corps. et je me dis que dans les années à venir, avec tout ce qu'on nous balance malheureusement à notre insu ou pas d'ailleurs, hein, en termes de perturbateurs endocriniens, de choses qui font qu'en fait notre système est inondé de choses extérieures à gérer, qui peuvent parfois déborder et créer des problématiques. Donc on a ça d'un côté, on a le système de santé qui s'effondre et qui ben, du coup n'est pas à même de gérer toutes ces choses-là et surtout de personnaliser un soin, de prendre une personne dans sa globalité parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Et donc j'aurais tendance à souhaiter qu'on aille dans la direction des capacités d'auto-guérison du corps, on va dire, de peut-être développer ce sujet-là en faisant comprendre que on n'a pas besoin forcément de l'extérieur pour prendre soin de nous, qu'on peut prendre soin de nous par nous-mêmes et que si on nous donne les bons outils et qu'on nous donne aussi les bonnes connaissances, on parlait d'études, il y a quand même 1 milliard d'études qui sont biaisées et qui font qu'on n'a pas forcément les connaissances réelles et les enjeux réels de ce qui se passe sur notre santé. Mais en tout cas, je suis convaincue que le yoga peut nous aider à développer ça et à développer l'écoute du corps et puis à être plus à même de réagir quand on a un système qui part un peu en cacahuète, qui va pas bien et qu'on n'a pas forcément les moyens de se diriger vers le système de santé entre guillemets traditionnel. Donc prendre plus soin de soi et pouvoir détecter aussi d'éventuelles anomalies par soi-même, avoir un peu plus d'autonomie sur la gestion de sa santé. Donc ce serait ma piste de recherche liée au yoga. Comment on peut développer tout ça avec le yoga ?
Bah, je la suivrai avec beaucoup d'attention. <quoi. rire>
Lançons des études. Allez.
Bah oui, pourquoi pas. Je sais pas si on va avoir tout le financement comme Uberman grâce à ce podcast. Mais ça serait bien. Écoutez, pourquoi pas.
Jamais.
Écoutez, espérons. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été passionnants tous les deux. Vous nous avez apporté, je pense, plein de pistes pour être un petit peu plus nuancés par rapport aux études, plein de ressources aussi qui sont fiables, sur lesquels on peut vraiment se baser, et je pense que ça c'est super important. Est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez rajouter avant qu'on termine?
À la rigueur, éteignez tout, mettez-vous sur votre tapis et bougez, c'est tout, comme ça, en fermant les yeux, en regardant ce qui se passe à l'intérieur. Si ça ressemble pas à une posture de yoga, personne ne le verra.
Ok.
On s'en fout. Fermez les rideaux et c'est tout, quoi. Bouger, comme ça fait du bien.
Et aussi, je peux remercier Isa de nous avoir invité à nouveau. Pour ce...
Mais c'est toujours un plaisir, vous le savez.
Pour nous aussi.
Ouais, merci beaucoup. On va vite aller tout éteindre et du coup pratiquer en fermant les yeux. Je pense que c'est la meilleure manière de conclure cet épisode avec vous deux. Merci et j'espère à très vite. On vous spoile pas, mais on aura l'occasion de recroiser Gwen et Rémi en individuel pour deux sujets qui, je pense, vont aussi vous passionner. Merci Gwen et Rémi.
Merci.
Salut, merci à toi.
Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.